Chapitre 1, le dérèglement du monde.
Pourquoi parles-tu de dérèglement alors que nous sommes environnés de règles?
Parce que si je regarde le monde, je vois que 200 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, 60 pays sont en guerre, 35 millions de réfugiés cherchent à survivre, 300 millions d'enfants sont exploités, un enfant meurt de faim toutes les 3 secondes.
Arrête ! Je vois plutôt pas mal de gros dans ma classe.
Effectivement, il y en a maintenant plus dans le monde que de personnes qui ont faim. L'obésité caractérise les déséquilibres alimentaires, que ce soit en quantité chez les riches ou en qualité chez les pauvres.
Sans compter le gaspillage, quand je vois tout ce qu'on jette...
Oui, environ 30% de la production agricole n'est pas consommée, mais jetée dans les pays qu'on appelle développés.
Pourquoi tu dis pays dit développé?
Parce que beaucoup de personnes croient encore que notre civilisation est plus développée globalement chez nous, au nord de la planète, qu'au sud.
C'est vrai, on a beaucoup plus de voitures, de maisons, d'ordinateurs, de choix dans les magasins.
Tu parles donc du développement matériel, technique, de ce qu'on appelle couramment le progrès. Mais est-ce qu'on est plus heureux, je t'ai déjà demandé, avec tous ces équipements?
Je sais pas, mais je vois beaucoup de gens l'air triste dans le métro, dans les rues, beaucoup habillés de noir, affairés.
C'est ce qui frappe les étrangers à notre mode de vie lorsqu'ils le découvrent. Ils nous disent « Pourquoi courez-vous toujours après le temps? Pourquoi voulez-vous toujours aller plus vite? Pourquoi ne prenez-vous pas le temps de vivre ?»
Difficile de répondre.
Parce que nous sommes asservis à une représentation du monde dit « moderne » qui nous fait par exemple admettre avec fatalité que la route tue et mutile des milliers de familles chaque année, que de plus en plus de personnes n'arrivent plus à se nourrir correctement en fin de mois. Bref, le désordre social.
Pourtant, quand je vois les massifs de fleurs dans le parc public, les haies bien taillées, c'est beau, c'est bien rangé, il n'y a pas de désordre.
Tellement bien rangé qu'on constate que de nombreuses espèces ont déjà disparu et qu'on ne les retrouvera plus jamais dans la nature, sauf quelques-unes qui sont protégées dans de fragiles réserves. La dégradation des écosystèmes s'amplifie. L'objectif de stopper la perte de biodiversité en 2010 n'a pas été atteint par les 193 pays signataires de la Convention sur la diversité biologique.
On ne peut pas avoir toutes les plantes du monde. Ça dépend aussi du climat.
Eh bien, parlons-en du climat. Tu as dû entendre parler du dérèglement climatique, des trous dans la couche d'ozone, de l'effet de serre.
Oui, mais si la Terre se réchauffe, ça n'a pas que des inconvénients. Il paraît qu'on pourra traverser bientôt le pôle Nord directement en bateau, découvrir de nouveaux gisements.
Ok, mais es-tu prête avec tes amis à accueillir chacune dans votre chambre quelques-uns des millions de réfugiés climatiques, parmi tous ceux que la mer aura chassés de leur territoire, recouverts par la montée des eaux suite à la fonte des banquises?
Déjà que les immigrés sont mal vus chez nous. S'ils doivent fuir aujourd'hui leur pays trop pauvre pour les nourrir ou parce qu'ils craignent pour leur vie.
As-tu remarqué que plusieurs de ces pays dits pauvres regorgent en fait de richesses, notamment dans leur sous-sol?
Je sais pas, mais j'ai vu à la télé des gens très riches, avec des palaces et des grosses voitures dans leur ville.
Eh bien voilà, quand on parle de développement, une fois de plus, il faut préciser de quel développement il s'agit et qui en bénéficie. On observe surtout, actuellement, un formidable développement des inégalités dans le monde. Plus de 80 pays ont aujourd'hui un revenu par tête inférieur à ce qu'il était il y a 10 ans. À eux seuls, les 3 personnes les plus riches du globe détiennent un patrimoine équivalent à la somme des richesses produites par tous les pays les moins avancés avec leurs 600 millions d'habitants.
Il faut bien pourtant qu'il y ait de la croissance dans ces pays-là, pour que les populations puissent manger à leur faim et trouver du travail.
Parlons-en de cette croissance, qui remplace la pauvreté par la misère, qui remplace les cultures vivrières, celles dont les gens se nourrissent localement, par l'exportation intensive de monocultures, et donc accroît la dépendance de ces pays.
Tu veux dire que leur production locale est ruinée par l'importation de nos produits agricoles?
C'est ça. Les pays du Nord produisent de manière intensive du blé, des poulets, du riz, etc. à bas prix, et du coup inondent les marchés des pays du Sud.
Comment pouvons-nous produire à bas prix au point de concurrencer les produits locaux, que tu appelles culture vivrière, si j'ai bien compris?
Parce que nos politiques agricoles subventionnent l'agriculture industrielle, celle qui utilise beaucoup d'intrants, des engrais, des pesticides et beaucoup de machines qu'ils n'ont pas.
On n'a qu'à les aider à s'équiper pour produire comme nous.
Mais ce type de production agricole intensive est un désastre pour l'environnement. Ça stérilise les sols, ça fait disparaître l'humus, ça pollue les nappes phréatiques et les plages, ça réduit la biodiversité et ça supprime beaucoup de prédateurs naturels, sans compter que ça consomme massivement de l'énergie et des intrants chimiques.
Arrête ! Je crois entendre mon oncle Roger.
Ah oui, lui aussi, déjà en France, il souffre de ce mode de développement qui ruine l'agriculture paysanne. Alors que ce sont eux, les paysans traditionnels, qui entretiennent notre patrimoine, la diversité de la faune et de la flore, en respectant les sols, les haies, les cours d'eau, ce qu'on appelle les pratiques agroécologiques.
Est-ce vrai qu'ils ne peuvent même plus reproduire leurs propres semences ?
Voilà un bon exemple de mise en dépendance dans notre propre pays. Il existe en effet toute une industrie de privatisation du vivant par la généralisation de brevets, la fabrication d'hybrides qui ne peuvent plus se reproduire, de plantes génétiquement modifiées, de contrôles abusifs comme le port obligatoire de puces électroniques pour le cheptel.
J'ai entendu que les OGM permettraient de supprimer la faim dans le monde.
Oh, c'est une mauvaise réponse à une vraie question. Il faut viser l'autonomie, pas la mise sous tutelle. Il est prouvé que l'agriculture agroécologique peut nourrir la population mondiale, même avec l'augmentation de la démographie. Et la dissémination inévitable des manipulations génétiques va provoquer d'irrémédiables ravages.
Comment ce type d'agriculture industrielle s'est développé ?
Par l'exploitation d'une énergie presque gratuite, le pétrole. Depuis sa découverte, qui est récente à l'échelle de l'humanité, il y a eu un développement extraordinaire des machines, de la chimie, des techniques. Nous pouvons considérer aujourd'hui que chacun de nous consomme l'équivalent de la force de centaines de personnes grâce au pétrole. C'est ce qu'on appelle un esclave énergétique, c'est une unité de mesure de l'énergie, comparant une consommation d'énergie avec un équivalent de production mécanique qu'un adulte en bonne santé pourrait produire en un an. À travers sa consommation d'énergie, chaque Européen utilise désormais l'équivalent de la force de travail de 150 domestiques en permanence, qu'ils s'appellent machines d'usine, trains, voitures, bateaux, avions, tracteurs, chauffage central, électroménager, tondeuse à gazon, téléski, etc.
Ce qui nous évite beaucoup de peine, de fatigue.
À court terme, oui. Le problème, c'est que le pétrole, comme le sable et bon nombre de matières premières, sont des ressources naturelles. Elles ont mis des millions d'années à s'accumuler. Et notre civilisation, ou ce qu'on appelle civilisation, les exploite aujourd'hui jusqu'à l'épuisement. As-tu entendu parler du pic de pétrole ?
Il paraît qu'on découvre encore des gisements d'énergie.
Oui, mais à quel prix ? Il faut creuser de plus en plus profond, dans le fond des mers, bientôt sous les pôles, pour extraire le pétrole restant, ou fracturer notre sous-sol pour dénicher le gaz de schiste, exploiter les réserves de charbon qu'on avait abandonnées pour cause de pollution de l'air.
Alors, plutôt développer les centrales nucléaires ?
Surtout pas. D'abord, l'uranium est aussi une ressource fossile. On ne peut le récolter qu'une fois. Son extraction pose de gros problèmes de pollution de l'environnement et d'exposition des travailleurs à des risques très importants pour leur santé. Ensuite, son traitement puis son exploitation des centrales nucléaires présentent d'énormes risques et les accidents nucléaires sont irréversibles. Enfin, les centrales nucléaires produisent des déchets très dangereux que nous entassons pour les générations suivantes. Il faut remettre en cause l'extraction effrénée des dernières ressources naturelles de notre planète.
Peut-être, mais cette énergie nucléaire nous rend indépendants par rapport aux pays producteurs de pétrole.
Tu parles. D'où provient aujourd'hui le minerai de base, l'uranium ? Des pays étrangers, notamment l'Afrique. Il en est de même pour ce qu'on appelle les terres rares. celles qui sont utilisées dans la haute technologie pour nos portables, par exemple. Ce sont des ressources naturelles, donc en quantité limitée sur la Terre, et nous en consommons de plus en plus.
Il faut alors développer les ressources renouvelables.
Bien sûr. L'énergie du vent, des marées, des fleuves, du soleil, la chaleur de la Terre, ce qu'on appelle la géothermie, la fermentation de la biomasse, ne s'épuise pas. Mais la question préalable, elle réside dans notre consommation exponentielle d'énergie. Ça devient insoutenable.
Il faut bien changer de portable ou d'ordinateur de temps en temps, au fur et à mesure des progrès.
Et voilà, encore le progrès. Est-ce réellement un progrès que d'être obligé de travailler beaucoup pour pouvoir acheter tous ces objets, ces voitures, ces équipements qui nous encombrent, tombent en panne rapidement, on appelle même ça l'obsolescence programmée, et qui envahissent ensuite les déchetteries?
On dit que ça fait marcher le commerce.
Eh oui, les supermarchés profitent de notre frénésie d'achat, et pendant ce temps, les petits commerçants de nos quartiers disparaissent. As-tu vu les conditions de travail, les rémunérations des employés des grands magasins? Sais-tu comment leurs centrales d'achat font mettre à genoux les producteurs pour baisser le prix au maximum, sans rogner sur leurs marges?
Non, mais il y a du choix. Rien qu'au rayon confiture, je peux choisir tout ce que je veux.
Est-ce que tu as vraiment besoin de 50 sortes de pots différents? As-tu par exemple remarqué l'origine des miels? Dans les grandes surfaces, il est souvent écrit « miel originaire et non originaire de la CE ». Ça veut dire qu'il vient de n'importe où sur cette planète. Et souvent il est allongé d'eau, ou fabriqué de manière industrielle, en Chine par exemple, avec différents sucres, en usine, sans jamais voir une seule abeille, à l'heure où elles disparaissent.
Berre. Je comprends pourquoi maman préfère l'acheter chez l'apiculteur du village.
Le miel de Chine, comme beaucoup de choses qu'on n'achète pas cher, continuera d'envahir nos magasins tant que les ouvriers seront exploités en Asie et qu'on fera traverser les mers à des millions de tonnes de marchandises sur d'immenses cargos.
Qui consomme nos réserves de pétrole?
Ces cargos, effectivement, tu as très bien compris, consomment beaucoup. D'ailleurs, c'est le secteur du transport. Bateaux, camions, voitures, tracteurs, qui arrivent au deuxième rang des consommations de carburant dans le monde.
Je suppose qu'en premier, ce sont les usines.
Non, c'est le chauffage dans les logements qui absorbe le plus d'énergie à l'heure actuelle. L'énergie calorifique est beaucoup plus exigeante que l'énergie mécanique. Nous gaspillons beaucoup d'énergie par manque d'isolation des bâtiments, dans la pollution lumineuse nocturne, dans les loisirs motorisés, les déplacements aériens futiles, etc.
Juste dans les pays riches.
Eh bien, si tous les pays se mettent à consommer de l'énergie comme nous et à renvoyer du carbone dans l'air, notre planète ne suffira pas. Il en faudrait plusieurs. C'est pourquoi, alors que nos ressources sont limitées, on va dans le mur avec notre recherche permanente de la croissance.
Mais moi, je suis en pleine croissance. Et je me porte bien.
Cette période d'adolescence ne durera pas. Ta taille va se stabiliser, puis même régresser, et puis un jour, comme grand-papy...
Bon, on en reparlera plus tard. En attendant, tout le monde à la télé espère le retour de la croissance.
C'est bien le problème. Il y a peu d'opposition sur ce thème, car notre économie fonctionne sur le court terme, le profit immédiat. Par exemple, notre principal indicateur économique est le PIB, qui mesure seulement la production de richesses économiques, même s'il s'agit de dépenses liées aux accidents domestiques, aux accidents industriels, routiers.
Qu'est-ce que tu voudrais mesurer d'autre?
Eh bien, le développement, par exemple, de l'accès aux soins, de l'accès à l'éducation, à la liberté, le droit au logement, la qualité de vie.
Ça va être compliqué.
Oui, mais ça vaut le coup de mesurer ce qui fait, en fait, le bonheur de vivre, d'être en bonne santé, de recevoir une instruction, d'accéder aux décisions, de pouvoir se déplacer. Or, ça existe déjà et il faut en parler davantage.
Oui, mais à l'école, ce qui intéresse mes amis, c'est les vêtements, les chaussures de marque, les jeux vidéo qu'on voit à la télé.
La publicité est un formidable vecteur de ce mythe de la croissance illimitée. Faire acheter toujours plus est sa vocation. Elle réussit très bien, au-delà de nos besoins réels. Sais-tu que quand tu achètes un produit, tu achètes aussi sa publicité? Tu la payes. Consommer plus est tellement intégré dans nos cerveaux aujourd'hui que beaucoup de familles s'endettent pour acheter du superflu.
Mais même dans les pays pauvres?
En limite de désert, ou dans les bidonvilles, on peut voir des antennes télé, des canettes rouges et noires de boissons gazeuses, alors que les familles n'ont même pas l'eau courante. C'est dire l'efficacité de la propagande de ce mode de développement. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'une impasse, que nous fonçons en direction du mur du fond, et ce qu'on nous propose, c'est d'accélérer dans la même direction.
Ça va être brutal comme accident, dis donc.
Oui, brutal, surtout pour ceux qui n'auront pas les moyens de s'engager dans d'autres voies. C'est déjà le cas pour les populations qui ne peuvent fuir leur territoire pollué ou qui ne peuvent plus survivre parce que le prix de leur production locale s'est effondré. Elles sont décimées par des maladies que leur civilisation ne connaissait pas.